من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Donc nous nous sommes arrêtés dans الفائدة الأولى, donc première leçon parmi les 10 leçons que va donner Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, comme préface, préambule, avant d'entamer le commentaire de Muqaddimat Risalat ibn Abi Zayd Al-Qarawani, rahimahullah ta'ala. Donc le Cheikh, hafizahullah, dit « وروى الإمام أحمد » وأبو داود وغيرهما واللفظ لأحمد عن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله وغيره على هذا الحديث في حاشية المسند. الإمام أحمد ainsi que l'imam Abu Daoud et d'autres parmi ceux qui ont rapporté les hadiths dans des recueils. Et ici, la version, la variante du hadith, c'est celle de l'imam Ahmed dans son Musnad. D'après le compagnon Muawiyah, radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, les gens des deux livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui ont reçu la Torah et l'Évangile, se sont divisés dans leur religion en 72 factions, en 72 groupes, en 72 sectes, tendances. Et cette communauté, c'est-à-dire la communauté du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la communauté musulmane, va se diviser en 73 tendances, c'est-à-dire des tendances qui vont suivre les passions, qui vont quitter les textes religieux, qui sont la source et la base de la religion. Tous sont voués au feu, sauf une seule tendance, un seul groupe, et c'est le groupe, ceux qui restent sur le même groupe, qui était en premier. Comme dans une autre version, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une réponse qui est plus détaillée, plus explicite. Ici, il est dit le groupe. Et dans une autre version, il dit alayhi salatu wa sallam, ceux qui sont sur le même chemin que moi, ainsi que mes compagnons. Et Cheikh Abdul Muhsin dit, et pour celui qui veut regarder en détail la narration, le degré de ce hadith et les les autres variantes qui viennent renforcer la validité de ce hadith, il faut regarder les commentaires de Cheikh Shu'aib al-Arnaout, rahimahullah, et d'autres qui ont écrit sur ce hadith dans les annotations faites sur Al-Musnad. Cheikh Shu'aib al-Arnaout, il est connu pour avoir sorti beaucoup de livres de hadith, de manuscrits. Il a fait ce travail de les mettre en un pour qu'ils soient imprimés et qu'ils soient disponibles pour les étudiants, les savants et le public. Bien que il y en a qui disent que il est revenu à la croyance des salafs à la fin de sa vie. Il est mort il n'y a pas très longtemps, rahimahullah. C'est un Albanais. Al-Arnaout veut dire l'Albanais. Al-Arnaout, c'est les Turcs. À l'époque ottomane, les Albanais, et il y a une forte minorité albanaise en Turquie, ils les appellent Al-Arnaout. C'est le nom qu'il leur est donné. Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, dans sa jeunesse, il s'appelait Al-Arnaout. C'est lui qui l'a enlevé, puis il a mis Al-Albani. Ce nom, il s'appelait Al-Arnaout. Cheikh Abdel Qadir Al-Arnaout. Hein, ce n'est pas la même famille, ils sont seulement de la même origine. Seulement Cheikh Abdel Qadir, lui, rahimahullah, il est mort il y a plus de 10 ans. Rahimahullah ta'ala, lui, c'est un Albanais du Kosovo. Et Shu'aib al-Arnaout, il est de la même région que Cheikh Al-Albani. La même région. Même si dans les anciens travaux, on trouvait les deux noms ensemble, Cheikh Abdel Qadir et Cheikh Shu'aib al-Arnaout, qui ont fait le tahqiq, qui ont revu, qui ont fait un travail sur un tel livre, il y en a directement, parce qu'ils voient le même nom, ils pensent que c'est son nom de famille. Après, ils pensent que ce sont des frères. Non, ce sont deux personnes différentes qui, à une certaine époque, ont travaillé ensemble, puis après, chacun travaillait seul. Cheikh Abdel Qadir était connu pour être, alhamdoulilah, sur la croyance et le dogme des salafs. Cheikh Shu'aib, anciennement, il n'était pas connu pour cela. Au contraire. Mais certains disent qu'à la fin, il est revenu à la kulli hal, rahimahullah ta'ala. Mais il est reconnu aussi dans son domaine, dans le travail du hadith. وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أنس إسو حديث il a beaucoup de variantes et au final il est valide et authentique. Et il y a des gens de la passion et de l'innovation qui essayent de chercher dans l'histoire qui n'a pas accepté ce hadith ou qui a rendu une de ses variantes faible pour faire croire au public qu'au final, ce texte prophétique est faible. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont marre de l'entendre dans la bouche des gens de la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien parlé de ce qui va se passer dans la communauté et ce qui va advenir à cette communauté, qu'ils vont se diviser et qu'il y aura beaucoup de tendances égarées qui vont innover et suivre leur passion et quitter ce sur quoi était le prophète ainsi que ses compagnons radiallahu ta'ala anhum. Et donc, puisqu'ils se sentent visés en entendant ce hadith, ils se sentent concernés, c'est comme si on citait les hadiths et les textes qui parlent du voleur et de la situation du voleur et de ce qu'il advient du voleur. Et bien un voleur qui est dans le public qui se sent mal, n'est-ce pas, hein, il pense même que le discours il est pour lui. On parle du mensonge, un menteur dans le public, ça va être la même chose, subhanallah. Et pour souvenir, quand il y avait Cheikh Salih Zubaydi, hafizahullah, un des professeurs de l'université islamique de Médine et docteur, lorsqu'il y avait un séminaire ici en région parisienne, il parlait de certains aspects caractéristiques des innovateurs. Et il énumérait, voilà comment ils sont les innovateurs, voilà, point par point. Il n'a pas terminé qu'il y en a un qui était assis, il a levé la main. Il a coupé la parole au Cheikh. Le Cheikh lui a dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, mais depuis tout à l'heure, tu parles de moi. Il lui a dit, Cheikh, il ne le connaît pas, il vient d'Arabie. Il ne l'a jamais vu. Et en l'occurrence, ça, c'était une personne qui était tablirie. Vous le sachiez, il était tablirie. Mais en entendant le Cheikh, il s'est reconnu dedans. Il a dit, le Cheikh a fait ce discours pour moi. Subhanallah. Donc, les mubtadi', les innovateurs, les gens de la passion, lorsqu'ils entendent ces textes-là, ils sentent qu'ils sont montrés du doigt. Et là, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux qui souvent sont connus pour être laxistes sur la vérification de l'authenticité des hadiths, et qui sont connus pour être des conteurs et raconter des histoires avec des hadiths inventés, pire qu'un hadith faible. Puisque ça va dans le bon sens, comme ils disent, ils s'en servent, et là ils disent, non, le hadith il est faible. Mais depuis quand vous faites attention aux hadiths, ils sont faibles ou pas? Le hadith, vous le ramenez sur la balance de la raison. C'est votre raison qui vous dit, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Subhanallah. Contrairement aux gens de la vérité. Et que le raisonnement n'est pris en compte que s'il ne contredit pas la religion et les textes religieux. Et même aujourd'hui, parmi les frères musulmans, Hassan et Hussein, ils se moquent de ce hadith. Et il dit qu'il n'est pas bon. Un menteur comme lui, qui ment sur la religion d'Allah, et il ment aux gens, subhanallah. Des atrocités, ce qu'il raconte. Des atrocités. Wal'iyadu billah. Il rend halal et haram comme bon lui semble. Wallahu al-musta'an. Donc ce hadith, il est reconnu comme bon, authentique, de la part des grands savants du hadith et des grands savants de la sunna. Et il y a eu des ouvrages spécialement écrits sur l'étude de ce hadith. Wa rawa al-Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi an Anas fi hadith tawil آخره فمن رغب عن سنتي فليس مني. Et l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rapportent dans leurs deux authentiques, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, dans un long hadith, à la fin de ce hadith on retrouve cette parole prophétique: celui qui se détourne de ma sunna, de mes enseignements, de ma voie, de mon chemin, ne fait pas partie de moi. Et ce hadith, c'est le hadith de ces trois hommes qui sont venus frapper aux portes des demeures du prophète alayhi salatu wassalam. Étant absents, ils ont questionné les mères des croyants: comment elle est l'adoration du prophète sallam, la quantité, la teneur de l'adoration du prophète sallam. Et les épouses ont répondu que c'est un homme qui prie et qui dort, qui prie la prière de la nuit, mais une partie de la nuit, il adore. Et qui jeûne et qui rompt son jeûne. Et il se marie avec les femmes, il ne se prive pas de se marier. Et dans une autre version, et il mange de la viande. Ils ont minimisé l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont considéré que ce n'était pas assez, s'imaginant que le prophète faisait plus que cela. Mais l'un d'entre eux a fait le rappel en disant: n'oublions pas que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a tout pardonné, les péchés antérieurs et à venir, les erreurs antérieures et à venir, alors que ce n'est pas le cas pour les autres personnes. Alors, ils se sont mis à prendre des engagements. L'un a dit: moi, je prierai toutes les nuits entières sans dormir. L'autre a dit: moi, je jeûnerai tous les jours. Et le troisième a dit: et moi, je ne me marierai jamais avec les femmes. De vivre comme une vie de moine dans les monastères. Ils se privent de ce bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a octroyé à ses créatures. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, ses épouses lui ont raconté ce qui s'est passé. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pris de colère, est monté sur le mimbar, a réuni les gens et leur a dit: comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui disent ceci et cela? Par Allah, je suis celui qui connaît le mieux Allah parmi vous. est le plus pieux auprès d'Allah parmi vous. Il cite, alayhi salatu wassalam, une réalité. Allah lui a donné cela. Mais je suis un homme qui prie la nuit et qui dort, qui jeûne et qui rompt son jeûne, et je me marie avec les femmes. Que celui qui se détourne, qui ne veut pas de ma sunna, ne fait pas partie de moi. Il n'a rien à voir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et les gens sont attirés par ce genre de personnes mystiques, si on peut dire, qui se détournent complètement des bienfaits d'Allah Azza wa Jal en pensant bien faire. Ils font mal, parce que les meilleurs des hommes sont les prophètes. Et les prophètes ne se sont pas privés des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont servis de ces bienfaits de la meilleure manière, mais de s'en priver totalement, jamais. Et ils se sont mariés. Et combien d'entre eux ont eu des enfants ? Alayhim salatu wassalam. Alors, ces gens-là qui pensent bien faire en se privant de mariage, en faisant cela, ils imitent les moines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit la rahbaniyata fil islam. Rahbaniya, c'est cet état d'être comme les moines, de se priver des bienfaits et d'être renfermé dans un monastère, soi-disant pour s'adonner à l'adoration. Alors que dans ta vie, avec une bonne intention, vivant dans le halal, dans ce qui plaît à Allah, dans ce qu'Allah a permis, tu es en état d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Parce que tu ne fais pas ce qu'Allah a interdit. Subhanallah. Donc ça n'existe pas en islam. Ar-Rahbaniya, le fait d'imiter les moines, c'est une chose qui n'existe pas en islam. Et même dans la chrétienté à la base, ça n'existe pas. Ça a été innové par des hommes. Eux-mêmes, ils se sont mis dans des engagements qu'ils n'ont même pas pu tenir eux-mêmes. Et c'est eux-mêmes qui se sont obligés. Jamais Allah leur a demandé cela. Et ça, on le retrouve chez les soufis. Et ce sont des gens qui ont une considération chez la communauté. Subhanallah. Ah, un tel, il est loin de tout ça. Il est retiré dans une grotte ou je ne sais où. Il n'a aucune relation avec la communauté. Les gens pensent qu'il fait du bien, alors qu'en vérité, non. Il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à lui-même. C'est pour cela qu'après, il y a les mauvaises idées qui se propagent. Quelqu'un pense que de faire le pèlerinage à pied est meilleur que de prendre l'avion. Il y en a qui pensent comme ça ou pas? Mais bien sûr. Bien sûr. Il y en a, ils pensent que aller prier sur le sable chaud, brûlant, c'est mieux que de prier à l'intérieur de la construction. Parce qu'ils pensent que plus c'est dur, et mieux c'est. Quand tu n'as pas le choix, tu es contraint, c'est une chose, mais de ton plein gré, c'est toi-même qui décides de te torturer, comme si Allah nous a demandé, ordonné de se torturer, ça n'existe pas. C'est une mauvaise idée. Ce n'est pas l'islam qui nous l'enseigne, ça. Ce n'est pas vrai. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montait sur les montures. Il montait sur l'âne, sur la mule, sur le cheval, sur le dromadaire. Subhanallah. Il a même fait le tawaf sur sa monture. Le tawaf tourne autour de la Kaaba. Alayhi salatu wa sallam. Donc, ça, c'est une fausse idée que se font les gens. En pensant que non, ce n'est pas bien d'être trop dans. Non. Chacun vit selon les capacités, les moyens qu'Allah lui a octroyés. Subhanallah. Et quelqu'un à qui Allah lui a donné, il lui a fait don de quelque chose, hein, il se doit de montrer ce bienfait d'Allah Azza wa Jal en lui. Tant qu'il n'y a pas d'interdit là-dessus. Wa innama kanat aqidatu ahli sunnati wal jama'a مبنية على الكتاب والسنة لأن ما يعتقد هو من علم الغيب ولا يمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسنة. Et le dogme, la croyance des adeptes de la sunna et du groupe est basée, fondée, construite sur le livre et la sunna, les versets coraniques et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Car ce dont on doit avoir la croyance, la conviction, le dogme, fait partie du monde invisible. Fait partie du monde invisible. Et on ne peut avoir connaissance de cela que par le biais de la révélation. C'est un monde qu'on ne peut pas connaître. Est un menteur celui qui viendrait prôner le contraire. Et la révélation, on la retrouve dans les versets coraniques et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour cela que la croyance de l'Ahle Sunna, ce sont le Coran ou le Sunna. On ne peut pas, alhamdoukallah, on ne peut pas connaître le domaine de l'aqidah que par le biais des versets coraniques et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Contrairement aux innovateurs qui te ramènent des règles, qui te ramènent des points qui émanent de l'être humain, de son propre imaginaire, de sa propre raison, puis il essaie de trouver dans les textes ce qui va renforcer son sens ou appuyer ce qu'il veut, ou essayer de faire travailler sa raison pour te faire convaincre que cette croyance, elle est bonne. Wal'iyadhu billah. Jusqu'à même qu'ils ont été différenciés entre les hadiths authentiques. Alors que, à la base, c'est seulement pour préciser. Un hadith mutawatir, un hadith ahad. Que celui-là, il était rapporté en abondance, par beaucoup de nombres. Et celui-là, n'ont rapporté que 1, 2 ou 3, pas beaucoup de personnes. Mais au final, le hadith, il est authentique. Ahle sunna disent, dès qu'il est authentique, il est pris en considération et il est mis en pratique. Les autres ont dit quoi? Non. Pour l'aqida, c'est tellement un point fort qu'on ne prend que les hadiths mutawatir. On ne regarde plus seulement la véracité, l'authenticité du hadith, mais le nombre de ceux qui l'ont rapporté. Même si la chaîne de narration est la plus authentique, jusqu'aux compagnons, eh ben ils te disent non. Après, ils ramènent la raison. Ce n'est pas possible que dans le domaine du dogme, il n'y a qu'un seul sahabi ou deux qui ramènent et les autres ne l'ont pas rapporté. Et ils font travailler leur raison. Voilà. En faisant cela, il rejette plein de croyances de la sunna. Et il les réfute comment? Ce n'est pas un hadith mutawatir. Alors que la majorité des hadiths ne sont pas mutawatir. Donc combien de hadiths il, jusqu'à même, comme le dit, précise bien, jusqu'à même que Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, pour montrer le côté contradictoire des innovateurs. Il dit, eux, ils prétendent quoi? Que les hadiths qui sont ahad, s'ils sont authentiques, on peut s'en servir dans la pratique religieuse, dans les ibadat, mu'amalat, dans la pratique. Mais dans la croyance, non. Alors, à titre d'exemple, qui ramène Cheikh Al-Albani ala rahmatullah, pour montrer comment ils sont contradictoires, qu'est-ce qu'il dit? Prenons comme exemple le châtiment de la tombe. Les hadiths qui nous parlent des châtiments de la tombe ne sont pas mutawatir, ils sont ahad. Donc, il y en a parmi eux qui disent quoi? Il n'y a pas de châtiment dans la tombe. On n'y croit pas au châtiment de la tombe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de hadith mutawatir qui en parle. Mais au même moment, ils vont mettre en pratique un hadith qui parle de demander à Allah la protection contre le châtiment de la tombe. C'est-à-dire que dans la prière, après avoir fait le tashahhud et la salat ibrahimiyya, il est demandé de demander à Allah la protection contre quatre choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Donc dedans il y a quoi? La demande de protection contre le châtiment de la tombe. Et Cheikh l'Albani dit subhanallah, gloire à Allah et pureté à lui. Comment peuvent-ils demander protection à Allah contre une chose dont ils ne croient même pas? Subhanallah. Vous avez vu où est-ce que ça amène? Subhanallah. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc à l'aqida, quelqu'un ne peut pas te dire il faut croire en telle chose. Pourquoi? Parce qu'il essaie de te philosopher ou de... Je ne sais pas. Non. Si je crois en telle chose, c'est parce que c'est cité dans le Coran et la Sunna. Je crois au paradis. Le paradis fait partie du monde de l'invisible. Comment je le sais qu'il y a un paradis? Parce qu'Allah, il en parle dans le Coran. Et le prophète, sans ça, nous en parle. Je crois aux anges. Je crois... Et ainsi de suite. Toutes les questions dans la croyance... Au feu de l'enfer, le jugement dernier, la résurrection. Comment on y croit? Parce qu'Allah nous en parle dans le Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous en parle dans ses hadiths. وَمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَثَبَتَ فِي السُنَّةِ فَإِنَّ الْعَقْلَ السَّلِيمَ يُوَافِقُهُ وَلَا يُعَارِضُهُ. Et ce qui est rapporté, venu dans le livre, le Coran, et qui est authentique dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, sachez que la bonne raison, la saine raison, elle l'accepte et elle est en accord avec. Et jamais elle ne va le contredire. Wa li Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kitabun wasi'un ismuhu Dar'u ta'arud al-aql wan-naql. Et le Cheikh de l'Islam, le grand savant l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, a un grand ouvrage à ce sujet concernant la raison et le texte religieux, qui a pour titre « Dar'u ta'arud al-aql wal-naql » que jamais la raison va à l'encontre du texte. La raison, quand elle est saine, elle n'a pas été polluée, entachée, eh ben, elle accepte, elle est prédisposée à accepter le texte. Rien ne l'amène à rejeter ou à douter sur le texte. Parce que le texte, lorsqu'il est authentique, verset coranique, hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est en toute conformité avec la saine raison. Et dedans, et des ulama aussi d'autres, ont expliqué, lorsque quelqu'un sent comme une contradiction ou un problème ou un souci entre la raison et le texte. Le texte, il faut déjà vérifier son authenticité. La raison ne l'accepte pas parce qu'en final, il va découvrir que le texte n'était pas bon, que c'était un texte inventé, que le texte était faible. Donc, il n'est pas pris en compte, le texte. Mais lorsque le texte, il est authentique, la raison, si elle a du mal, c'est la raison qui a un problème et non pas le texte. Et le texte a prééminence sur la raison. C'est la raison qu'il faut remettre en doute et non pas la parole d'Allah et la parole de son prophète alayhi salatu wassalam. Contrairement aux innovateurs qui ont dit que la raison, c'est elle qui va juger et décider qu'est-ce qu'on prend des textes et qu'est-ce qu'on accepte comme texte. Wal'iyadu billah. Wal mu'awwal alayhi في فهم النصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع وقد فهموا معاني ما خوطبوا به من صفات الله عز وجل لأن الكتاب والسنة بلغتهم مع تفويضهم إلى آخره. Et ce qui est à prendre en compte à ce sujet, c'est que la compréhension des textes, on a les textes, comme on entend certains dire, à chacun sa lecture. Je n'ai pas la même lecture que toi des textes. Et il pense que chacun, il lui est permis d'avoir la lecture qu'il veut du texte coranique ou du hadith du prophète alayhi wassalam. Ça, cette façon de faire, cet agissement n'a jamais été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Jamais ça n'a été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque des gens parmi les compagnons ont dit à ce compagnon qui était blessé à la tête et qui s'est levé le matin en état d'impureté majeure, et il leur a demandé: est-ce que je peux faire le tayammum, les ablutions sèches? Ils lui ont dit: non, tu dois faire le lavage du corps avec de l'eau. Il les a écoutés. Et il a fait son lavage et il en est mort. Lorsqu'ils sont arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont raconté un tel, voilà ce qui lui est arrivé. Il a dit: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. Ils l'ont tué qu'Allah les tue. أَلَا سَأَلُوا حِينَ جَهِلُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ. Pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils ont ignoré? Car le remède de l'ignorance, c'est de poser la question. Pas de question de dire. Et ça, ce sont des compagnons qui ont commis cette erreur. Pas, moi, j'ai ma lecture, toi, tu as ta lecture. Non. Subhanallah. Le prophète sallam n'a pas donné les textes dénudés de toute compréhension ou de toute explication à ses compagnons. Non. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Nous avons fait descendre sur toi le rappel, la sunna, pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été descendu et afin qu'ils réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les textes aux compagnons et l'explication de ces textes. Il leur a donné. Il leur a enseigné. Alayhi salatu wassalam. Adi ibn Hatim, ibn Abdillah ibn Hatim, Adi ibn Hatim ibn Abdillah al-Ta'i, radiallahu anhu, lorsque il a compris du verset coranique, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Le fil blanc et du fil noir de l'aube, jusqu'à que le fil blanc apparaisse pour vous. Vous pouvez manger, boire, jusqu'à qu'apparaisse le fil blanc du fil noir. Il a cru que c'était une histoire de fil. Il a pris un fil blanc et un fil noir et qu'il mettait sur son oreiller. Il attendait de pouvoir voir de ses yeux le fil blanc. Lorsqu'il en a parlé avec le prophète, il lui a dit non. Il lui a expliqué que c'était au ciel. Hein, les premiers traits de l'eau. Il n'y a pas d'histoire. J'ai ma lecture, tu as ta lecture. Subhanallah. Quelqu'un peut commettre une erreur, oui. Il a mal compris un verset. Mais de là à dire non, on a tous raison. Moi j'ai ma lecture, toi tu as ta lecture. Et ainsi de suite. Et c'est moi qui vais décider avec mon raisonnement quelle est la bonne lecture de la mauvaise lecture. Non. Allah a envoyé des prophètes, a fait descendre des livres pour pas que les gens ils aient un quelconque argument auprès d'Allah Azza wa Jal. Et les prophètes ont transmis le message total. Donc, ce qui est pris en compte dans la compréhension des textes, c'est ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous est rapporté d'eux comme authentique compréhension et science bénéfique. Et ils ont compris l'essence des textes qui leur ont été révélés, le discours qui leur a été donné. وقد فهموا معاني ما خوطب به من صفات الله عز وجل لأن الكتاب والسنة بلغتهم. Et ils ont compris le discours qui leur a été donné concernant et ce qui leur a été rapporté comme texte concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. Car le Coran et la Sunna sont dans leur langue. Et eux parlaient une langue arabe claire et évidente. Ils n'avaient pas de problème là-dessus. Et souvent, dans les premières époques, ils disaient que des personnes tombaient dans l'égarement, dans la déviation, du fait qu'ils étaient non-arabes. Et de ce fait, ils ne comprenaient pas totalement et clairement la langue arabe. Et c'est clair que c'est un énorme handicap, celui qui n'a pas la langue. Déjà, les gens qui ont la langue et qui n'ont pas la maîtrise, pour ça l'imam Malik, rahimahullah, disait qu'on ne me ramène pas une personne qui explique, fait l'exégèse du Coran, ne maîtrisant pas, ne connaissant pas les langues des Arabes, sans que je n'ordonne qu'il soit fouetté. Montre qu'il soit puni par le gouvernant. Vu la gravité de son acte, comment se permet-il d'aller parler sur les versets coraniques alors qu'il ne connaît même pas la langue dans laquelle a été révélé ce Coran, qui est la langue arabe. Donc, c'est la langue arabe, surtout pour un talib ilm, elle a toute son importance. On ne peut comprendre clairement et réellement les textes religieux si on n'a pas cet outil qui est important. C'est un outil qui a toute son importance. Et ce n'est pas un objectif à lui seul. Combien de gens qui ne sont pas musulmans, ils ont une certaine maîtrise de la langue arabe. Et combien de musulmans ont une maîtrise de la langue arabe et une connaissance de la langue arabe et ils ne sont pas dans le droit chemin. Ils sont même parmi les imams de l'égarement. Donc la langue arabe, elle a toute sa place et son importance, mais ce n'est pas l'objectif recherché en soi. Ça, c'est important. On a des gens qui négligent, qui ne prêtent pas attention à la langue arabe, c'est grave. Et de l'autre côté, on a des gens qui s'adonnent à la langue arabe jusqu'à délaisser les règles religieuses, délaisser le suivi de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on a des gens comme ça. Ils cherchent que celui qui parle très bien l'arabe, qui ramène des mots qui ne sont pas connus ou célèbres ou qui ne sont pas trop employés par les gens. Hein, et qui cherchent quelqu'un qui fait des rimes lorsqu'il parle. Il arrive à terminer tout le temps avec les mêmes lettres. Et voilà. Et il dit, oh, il a une maîtrise. Mais ce n'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Sache que Abu Lahab et sache que Abu Jahl et d'autres parmi les imams de l'égarement et de la mécréance et de l'idolâtrie à la Mecque n'avaient pas de souci dans la langue arabe. C'était des arabes purs. Ils comprenaient ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont choisi le chemin de l'égarement et de l'idolâtrie. Donc ne croyez pas que vous allez arriver à leur stade dans la compréhension de la langue arabe. Il faut faire attention. Il ne faut pas se tromper. C'est un outil important, indispensable. Et il faut. Et au minimum, comme disait Cheikh Mukhbil rahimahullah, il faut que chacun apprenne de la langue arabe ce qui lui permet de pouvoir parler et comprendre. Après, certains vont approfondir la langue arabe. Il n'y a pas de mal, c'est même demandé. Mais que tout le monde s'adonne à cet approfondissement, non, ce n'est pas possible. Donc c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un il vient, il parle l'arabe, les gens ils pensent que c'est un talib ilm. C'est un étudiant en religion. Ils sont prêts à lui poser des questions. Et Abu Jahl et Abu Lahab, ils parlaient l'arabe. C'était des mécréants. Vous allez au Liban ou en Égypte, hein, les Coptes ou les Maronites du Liban, vous en avez, ils ont une maîtrise de la langue arabe. Ils font des poèmes. Et beaucoup de dictionnaires français-arabes sont faits par des chrétiens. Et souvent des dictionnaires qui sont pas mal. Ils servent. Hein. Mais ce n'est pas des musulmans qui les ont fait. Donc ne croyez pas que la langue à elle seule, elle suffit. Non. Il faut faire attention là-dessus. Mais donc c'est un outil qui a toute son importance. Et combien de problèmes viennent du fait d'un manque de maîtrise de la langue arabe. Donc l'arabe, il faut l'apprendre. Il faut apprendre les lettres, l'alphabet, la prononciation. Et puis les gens, ils évoluent au fur et à mesure. Alhamdoulilah. Et un des problèmes aussi, c'est qu'aujourd'hui, je comprends que les gens, des fois, les jours sont difficiles, la vie elle est un peu difficile. Mais ce n'est pas parce qu'on est en manque de finances, je parle de personnes, ou personnes qui ont une famille, que d'ouvrir des portes qui sont... Les gens maintenant, tout le monde, beaucoup de gens, ils partent pendant un mois, deux mois, un an, deux ans, même 10 ans. Le résultat, il n'y a qu'Allah qui sait le résultat de la personne. Des fois, il y en a en peu de temps, on fait plus que ceux qui sont restés longtemps. Là n'est pas la question. Mais maintenant, aujourd'hui, personnellement, je le remarque, d'autres peut-être l'ont remarqué, tout le monde ouvre des classes. Dans le passé, on ne voyait pas cette ampleur. Tout le monde ouvre des classes. Et surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui, sur Internet et ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On parle de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Tout le monde, quel est leur niveau de cette personne? Vous imaginez si quelqu'un ne prononce mal l'arabe, ne sait pas formuler, fait des fautes, et il est professeur, que va être le résultat? Que va être le résultat? Le meilleur de ses élèves, il aura les fautes que lui fait. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des fautes. Subhanallah. Et la prononciation, il va prononcer comme lui. En pensant que c'est celle-là la prononciation des Arabes. Subhanallah. Et le borgne est roi dans le monde des aveugles. Les aveugles, ils n'ont pas le choix, ils ne voient rien. Donc celui qui voit un tout petit peu, ils n'ont pas le choix, ils le suivent. C'est ça le problème. Le problème d'aujourd'hui, c'est ça le problème. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. L'argent... C'est un moyen pour vivre, on en a besoin, on n'insulte pas l'argent, les gens là qui font croire que non, on n'insulte pas l'argent, on ne dit pas de mal de l'argent. L'argent elle seule, elle n'a rien fait, c'est les gens, comment ils s'en servent. Hein? Et l'argent, on en a besoin, et ils font partie des bienfaits de ce bas monde. Amwalukum wa auladukum, Allah nous en parle, hein? Vos biens, vos richesses et vos enfants. Donc alhamdulillah, c'est un bien, mais il faut savoir s'en servir dans ce qui plaît à Allah, Azza wa Jal, et convenablement. Mais maintenant, le problème, c'est que le religieux et l'argent se frottent. Et ça fait des dégâts. C'est pas bon. Même la sincérité de la personne, elle peut être mise en cause. Donc, cette recherche, à la base, les gens, quand ils ont besoin d'argent, ils vont travailler. Un travail mondain. Tous les prophètes étaient bergers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait du commerce pour Khadija avant de se marier avec elle. Radiallahu anha. Subhanallah. Les gens, pour gagner leur vie, ils travaillent. Des ulamas, des imams dans l'histoire, chacun avait un métier ou un savoir-faire ou un travail bien précis. Subhanallah. Donc, il y en avait qui allaient chercher le bois pour le vendre. Subhanallah. Les compagnons, il y en avait qui travaillaient la terre, des agriculteurs. Il y en avait qui faisaient du commerce. Donc, chacun, le métier qu'il fait. Cheikh Al-Albani était un horloger, il réparait les montres. Allez, chacun et le travail. Vous avez besoin d'argent? Les gens savaient, mais le religieux, à part si l'État ou la communauté s'occupe de quelqu'un, ils savent qu'ils en ont besoin pour la mosquée, ils en ont besoin pour les cours, pour les enseignements, et alhamdoulilah, il a cette capacité-là et tout, et eux, ils lui disent. Toi, tu ne vas pas travailler. On va te donner une compensation. On s'occupe de toi. Parce qu'il y a un besoin de cette personne et on ne peut pas le laisser passer son temps dans autre chose. Lui, il n'a rien demandé. C'est eux qui ont eu besoin de lui. Mais que lui, il en arrive à tendre sa main d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas convenable. C'est pour cela que même dans nos pays, des fois, celui qui connaît le Coran, les gens le prennent pour quelqu'un de pauvre. C'est un pauvre. Pourquoi? Parce que lui n'a pas connu la valeur de ce qu'il a, le Coran. Le Coran élève la personne. Et lui n'a pas su ça pour X raisons. Et il se sert de ce Coran pour aller chercher de l'argent à droite, à gauche. Pour aller dans les cimetières pour lire, pour gagner quelques pièces. Aller chez des familles qui ont des défunts. Il récite et on lui donne des pièces avec le Coran. Jusqu'à ce que les gens pensent que celui qui a le Coran, c'est quelqu'un de pauvre. Donc ce sont des gens des fois pervers, loin de la religion, c'est eux qui lui donnent. Alors que non, au contraire, subhanallah, lorsque Omar radiallahu anhu, il a appelé le gouverneur de la Mecque à venir à Médine, il lui a dit, qui as-tu laissé comme suppléant derrière toi? Il a dit, un tel parmi les affranchis. Un ancien esclave. Il lui a dit, tu n'as trouvé qu'un affranchi à mettre sur les habitants de la Mecque. Il lui a dit, oh prince des croyants, c'est un homme qui a la maîtrise, qui connaît le Coran et qui a la maîtrise de la science de l'héritage. Et là, le Omar a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, inna Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman. J'ai entendu le prophète dire, Allah élève par ce livre des gens. Même si c'est un affranchi, mais il a la maîtrise et la connaissance du Coran. Ça élève la personne, subhanallah. Et c'est le premier à mettre en pratique ce qu'il y a dans les textes. Ce n'est pas dire aux gens donner, mais lui c'est le dernier à donner. C'est, je ne sais pas si elle est vraie, mais il raconte une histoire, Allahu alam. Mais ça peut être vrai, vu ce qui se passe aujourd'hui, qu'un imam il a dit aux gens donner, quand il est rentré chez lui, il a vu que plein de choses ont disparu. Il a dit, où est-ce qu'ils sont? Il a dit, bah, j'ai donné. Pourquoi tu donnais? Bah, c'est toi qui l'as dit. Il a dit, il faut donner. C'est toi-même. Non, mais ça, c'était pour eux, pas pour nous. Subhanallah. Fayani Allah al-Musta'an. Après, ça devient de la... Ah, voilà. On se moque de ces gens-là. Des gens qui ont le Coran. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Hajj, l'Umrah. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais le Hajj et l'Umrah, ça devient du commerce. Alors que c'est une ibadah, c'est un rukn, une arkan l'islam. Ce n'est pas que la personne, vu le temps qu'il donne, il encadre des gens, il donne de son temps, il va passer des heures au consulat, dans les agences et tout. C'est vrai, il donne de son temps et tout, il a une compensation, ce n'est pas. Mais en plus de prendre de l'argent, il n'est même pas capable de tenir ses paroles et ses engagements qu'il a envers les pèlerins. C'est grave. C'est que l'argent, l'argent, l'argent. C'est grave. C'est grave. Les gens qui disent, vous avez entendu parler de l'Hajj al-Badal. Vous connaissez l'Hajj al-Badal? C'est quelqu'un, il veut par exemple qu'on fasse le Hajj pour son père ou pour sa mère parce qu'ils ne pourront pas le faire. Ils n'ont pas la capacité, mais ils ont les moyens financiers. Ils voudraient bien la récompense. Ou quelqu'un qui veut faire pour son père qui est défunt, ou pour sa mère, et ainsi de suite. Donc pour un proche. Et donc il trouve quelqu'un, il lui donne pour pouvoir aller le faire. On a quoi maintenant? Des gens qui mettent des tarifs. Qui mettent des tarifs. Alors pour, je te fasse, oui, ça ne suffit pas que tu me payes le voyage et tout ce qui va avec, mais il faut quelque chose derrière. Même des gens qui habitent à Mecca et à Medina, c'est-à-dire qu'ils sont sur place. Hein, ils disent, ouais, mais moi j'ai des choses à payer, j'ai des loyers, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ils rentrent ça dans quoi? Dans le Hajj. Subhanallah. Et alors qu'il y a des fatawas, des ulama qui parle de ça. Cheikh Rabi', Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, on en parlait longuement de cette question-là. De cette question-là. Déjà, premièrement, les textes religieux qui parlent de Hajj al-Badal, les compagnons qui ont posé la question au prophète sallam, c'est eux-mêmes qui vont le faire pour des membres de leur famille. Pour des membres de leur famille. On n'a pas de texte qui parle, quelqu'un fait le pèlerinage pour quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Donc, déjà là, les ulama ne sont pas unanimes là-dessus. Il y en a qui ne voient pas. Ils ne voient pas cette façon de faire. D'autres le voient. Et ils disent quoi? Que celui, là, en résumé, qui prend de l'argent pour pouvoir accomplir le pèlerinage, il a le droit de prendre. Parce que la personne, elle a besoin de lui. Mais lui, voilà, il a besoin de lui. Donc, il va lui financer son voyage. Et celui qui fait le pèlerinage pour l'argent, il lui est interdit de prendre. Vous avez vu la différence? Vous avez compris la différence ou pas? Hein? Celui qui prend de l'argent pour aller faire le pèlerinage, hein, il peut prendre. Mais celui qui fait le pèlerinage pour gagner de l'argent, pour prendre de l'argent, ça lui est interdit. Subhanallah. Et Yom al-Qiyama, comme dit Cheikh Al-Uthaymin, il en parle. Il dit, il n'aura rien auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est dangereux. Des portes que les gens ouvrent. Il y en a même qui disent, ils se sont retrouvés avec la même personne. Il dit, ah, moi c'est un tel, je lui ai donné pour faire le pèlerinage pour telle personne de ma famille. Mais il tombe sur une personne qui lui dit, mais moi aussi je lui ai donné. La même année, comment il fait? Comment il fait le pèlerinage? Hein? Allahu al-musta'an. Fa'ala kulli hal, on se doit de craindre Allah Azza wa Jal. L'histoire n'est pas d'ouvrir des écoles, d'ouvrir des centres, d'ouvrir des classes. On en a besoin, les gens ont besoin d'apprendre, soit, mais ça prend une ampleur. Il y a des gens, Allah al-musta'an, qu'Allah nous donne la sincérité, mais il est à craindre que c'est le côté financier qui les intéresse. Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler et ils cherchent peut-être une facilité, mais avec le religieux, après, quand ça se frotte, c'est pas toujours bon. C'est pas tout le monde qui sait faire la distinction. D'accord ? Et entre des gens qui se lancent dans des sujets ou dans des domaines qui sont au-dessus de leur capacité. Ce n'est pas toute personne qui est partie quelque part ou voyager et qui est revenue. Même, il a un diplôme. Je ne sais comment il a eu son diplôme. Hein? On ne sait comment il a eu son diplôme. Même, ce n'est pas toute personne qui a la capacité. Donc, il faut faire attention qu'Allah nous facilite à tous et nous octroie la réussite. Où est-ce qu'on en était ?
لأن الكتاب والسنة بلغتهم مع تفويض علم كيفياتها إلى الله عز وجل.
Ça veut dire que ils comprennent les textes religieux concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, mais au même moment, le comment de ces attributs, ils le laissent à Allah Azza wa Jal. Ils ne le connaissent pas, puisqu'Allah ne nous en a pas parlé. Et ça fait partie du monde de l'invisible. Donc on ne peut pas rentrer dans le comment. D'accord ? Donc, mais pas comme certains parmi les innovateurs font croire. Ils disent que As-Salaf faisait le tafwid, c'est-à-dire qu'il laissait cela à Allah Azza wa Jal, sur la compréhension des mots et le comment. Et ça, c'est faux. Ce n'est pas celui-là le tafouir des salafs. Le tafouir des salafs ne concerne que le comment. Mais le sens, ils le comprenaient. Parce que ce sont des mots cités dans une langue arabe claire. Ils comprennent. Et on a la parole de l'imam Malik, rahimahullah, lorsque l'homme l'a questionné. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Kayf. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Comment? Et l'imam Malik rahimahullah lui a dit Al-istiwa'u ma'loum. Donc il lui a dit l'istiwa, il est connu. Le sens de ce mot dans la langue arabe, c'est un mot qui est connu. Wal-kayfu majhoul. Mais le comment, il est ignoré. On ne sait pas. Wal-imanu bihi wajib. Et d'y croire, c'est une obligation, puisqu'Allah nous en parle. Subhanahu wa ta'ala. Wal-imanu bihi wajib. Et de poser cette question sur le comment, c'est une innovation, car les gens d'avant ne le faisaient pas. Car ceci fait partie de l'ghaib, de l'inconnu, de l'invisible, dont il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala seul qui connaît. كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا المنهج الصحيح. Comme cela nous est relaté, nous est rapporté de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, dans la clarification de ce cheminement ou de cette méthodologie authentique. حيث قال عندما سئل عن كيفية الاستواء. De sorte qu'il a dit, lorsqu'il fut questionné sur le comment de l'élévation d'Allah عَزَّ وَجَلَّ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. On a déjà traduit cela. وَقَدْ أَوْضَحَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الشيخ أبو العباس أحمد ابن علي المقريزي المتوفى سنة 845 هجرية. Et à clarifier ce sur quoi étaient les compagnons radiallahu anhum concernant le sujet des attributs d'Allah Azza wa Jal, le Cheikh Abu al-Abbas Ahmed ibn Ali al-Maqrizi décédé en l'an 845 de l'Hégire. Fi kitabihi al-Mawa'id wal-I'tibar bi dhikri al-Khutati wal-A'thar. Dans son livre qu'on vient de citer. Faqala, il dit dans son livre, ذِكْرُ الْحَالِ فِي عَقَائِدِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُنْذُ ابْتِدَاءِ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَىٰ أَنْ اِنْتَشَرَ مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيَّةِ. Rappel de la situation ou l'état des croyances des adeptes de l'islam depuis le début de cette communauté musulmane jusqu'à la propagation, l'époque où s'est propagée la voie ou le chemin des Ash'ariyya. I'lam anna Allah ta'ala lamma ba'atha min al-arabi nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulan ila an-nasi jami'an wasafa lahum rabbahum سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين. Sache qu'Allah, élevé soit-il, lorsqu'il a envoyé chez les Arabes son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم comme messager vers tous les hommes, vers tous les gens, il aura décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura décrit leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme il s'est décrit lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, dans le Coran, qui est descendu sur le cœur du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par le biais du Saint-Esprit, ou l'Esprit fidèle qui est l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam. وَبِمَا أَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ تَعَالَى. Et dans ce que son Seigneur lui a révélé. فَلَمْ يَسْأَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ بِأَسْرِهِمْ. Personne parmi les Arabes. Alors que le prophète leur parle d'Allah Azza wa Jal. Il leur cite les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Personne, aucune personne parmi les Arabes, entièrement, sans aucune distinction, qarawiyyuhum wa badawiyyuhum, qu'ils soient des gens des villes ou de la campagne, ni les citadins, ni les bédouins. Alors, à titre d'exemple, les bédouins étaient connus pour poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les citadins n'osaient même pas poser. Et avec cela, aucun d'entre eux, dans toute leur totalité, فَلَمْ يَسْأَلْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ بِأَسْرِهِمْ قَرَوِيُّهُمْ وَبَدَوِيُّهُمْ عَنْ مَعْنَ الشَّيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. Personne ne lui a posé la question sur ce sujet-là. Jamais. Ce questionnement-là n'existait pas. سبحان الله. كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي. Jamais ils n'ont questionné le prophète sur ces sujets-là comme ils l'ont fait sur les autres sujets comme la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et plein d'autres sujets appartenant à Allah Azza wa Jal dans lesquels il y a un ordre ou une interdiction. Wa kama sa'aluhu sallallahu alayhi wa sallam an ahwali al-qiyamah wal-jannah wal-nar. Et comme ils l'ont questionné alayhi salatu wa salam sur les situations du jour du jugement dernier, du paradis et de l'enfer. Ils l'ont questionné sur ces choses-là. mais jamais sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils entendaient les versets coraniques, les hadiths du prophète sallam. Personne, aucun d'entre eux, quel qu'il soit, n'est venu demander au prophète sallam là-dessus.
إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها.
Car si un seul avait questionné le prophète sallam sur le sujet des attributs d'Allah Azza wa Jal, cela nous aura été relaté. Cela nous aura été rapporté comme ont été rapportés les hadiths du prophète sallam sur les lois de l'islam concernant al-halal ou al-haram, le licite et l'illicite, concernant l'encouragement de faire les bonnes œuvres et l'éloignement des mauvaises œuvres, concernant la situation, les situations du jour du jugement dernier et les signes de la fin des temps et des troubles qui vont toucher la communauté et qui vont arriver, et plein d'autres choses semblables qu'on retrouve dans les livres qui sont les recueils des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des ma'ajim. Al-ma'ajim, c'est un des genres de recueil de hadith. C'est le pluriel de mu'jam. Certains, leur compilation, ils l'ont appelé al-mu'jam. Al-mu'jam, qui, c'est une façon de compiler, qui est de réunir tous les hadiths, par exemple, d'un même professeur, de qui il a pris. D'accord ? Donc, par exemple, il dit, là, je vais commencer par tel maître, tel professeur, tel alim, ce qu'il m'a rapporté comme hadith. Et il va mettre, voilà. Puis quand il a fini avec lui, il va faire avec un autre, un troisième, voilà. Il y a plusieurs shirs qu'il a, et chacun, il va lui mettre ses hadiths tout seul. Ça, c'est pour dire al-mu'jam. Masanid, c'est le pluriel de musnad. Et al-musnad, c'est une façon de compiler, de réunir les hadiths, le recueil de hadiths, qui est de réunir les hadiths du même compagnon. Les hadiths du même compagnon. Par exemple, Mu'jam Abi Bakr al-Siddiq. Et là, le alim Musnad. Musnad. Musnad Abi Bakr al-Siddiq. Barakallahu fik. Musnad, et tiens, ça tombe bien. La semaine dernière, je parlais de l'Est et l'Ouest. Hein? Et à Al-Maghrib, je disais l'Est. C'est l'Ouest. N'est-ce pas? Bien sûr. C'était une erreur. Lorsque j'ai parlé, et personne sur le coup ne m'avait repris là-dessus. Hein. Bien sûr qu'Al Maghrib, c'est l'ouest, là où se couche le soleil. Donc Al Musnad, donc c'est compilé par compagnon, par compagnon. Et Al Jami', c'est par les thèmes. Al Jami', c'est par les thèmes.
ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات.
Et celui qui va analyser en détail les textes dans les recueils des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et les textes des pieux prédécesseurs parmi les compagnons radiallahu ta'ala anhum et les pieux prédécesseurs, il saura avec certitude et certainement que jamais cela n'a été rapporté, que ce soit par une narration authentique ou même une narration faible, même une narration qui n'est pas authentique, jamais on a retrouvé cela rapporté qu'un des compagnons radiallahu anhum, quel que soit leur grade et leur degré, et tout en sachant qu'ils étaient nombreux radiallahu ta'ala anhum, jamais aucun d'entre eux n'a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet des attributs de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans les versets coraniques, comme Allah s'est décrit dans le Coran, ou sur la langue de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bel kulluhum fahimu ma'na dhalik. Car ils avaient tous compris le sens de cela. Wa sakatu anil kalami fi sifat. Et ils se sont tus de parler sur le sujet des attributs. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.